Merci de nous rejoindre à 13h10. La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin. Envie d'une nouvelle maison ? Ça tombe bien. On parlera aujourd'hui des matériaux innovants pour la construire. La France bouge, c'est tout à l'heure, mais d'abord, il est midi et demi. Votre journal de la mi-journée, c'est avec vous, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour dérouler l'actualité de ce mardi 4 août.
C'est très bien qu'ils viennent rencontrer les acteurs du terrain parce que le métier d'aide à domicile, c'est un métier difficile. On était en première ligne.
Alors que certains indicateurs font craindre une reprise de l'épidémie du coronavirus, Emmanuel Macron est au chevet des personnes âgées et des auxiliaires de vie ce matin. Vous venez de l'entendre. Tout cela pour rappeler l'importance de la prévention. Stéphane Frangy suit ce déplacement pour Europe 1. Dans ce journal également, la colère de la veuve d'un urgentiste mort du coronavirus.
Mon mari a travaillé dans un hôpital non préparé. Il savait, quand il a pris sa garde le week-end du 6-8 mars, qu'il courait un risque.
Il n'y avait pas assez de masques FFP2 à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Claire Loupiac a décidé de porter plainte. L'Espagne sous le choc après l'annonce de l'exil de l'ex-roi Juan Carlos.
C'est une honte pour le pays. Il devrait rester ici pour rendre l'argent qu'il a volé et répondre légalement de ses actes devant un tribunal.
L'ex-monarque aurait quitté le pays juste avant l'annonce de cet exil. Nous serons à Madrid et Emmanuel Duteil nous dira ce qui a motivé ce geste. Une balade dans l'espace, cela vous dit ? Eh bien, ce sera possible au premier trimestre de l'an prochain. Annonce faite ce matin par la compagnie Virgin Galactic. Coût du billet, 250 000 dollars seulement. Et il y a déjà des candidats sur la liste des passagers. La météo, le programme du jour, Valérie Darmon.
Bonjour à tous. Eh bien, les températures sont stationnaires par rapport à hier, entre 21 à Lorient et 31 à Montpellier. Et du côté du ciel, le soleil reprend ses droits sur la moitié ouest de la France ainsi que sur la moitié nord. Ça reste toujours un petit peu chargé et un petit peu pluvieux sur la façade est.
Merci Valérie, on vous retrouve un peu avant le journal de 13h. Voilà pour le sommaire, place à l'actualité.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Une seconde vague de l'épidémie du coronavirus hautement probable cet automne ou l'hiver prochain. Cette nouvelle recommandation publiée ce matin par le Conseil scientifique sonne comme une nouvelle mise en garde, effectivement. L'équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment vers une reprise incontrôlée de l'épidémie, écrit l'instance qui conseille au gouvernement dans sa politique de santé. Et de fait, il y a un indicateur qui inquiète les autorités sanitaires, Victor Delande. Cet indicateur, notamment, c'est l'augmentation du nombre de patients hospitalisés en réanimation.
Oui, une hausse qui avait déjà été enregistrée jeudi dernier. Un patient de plus dans les services de réanimation. Cet indicateur n'avait pas arrêté de baisser depuis le 9 avril dernier. Cette fois, la courbe s'inverse et dans le mauvais sens. Le week-end dernier, 13 patients de plus ont été admis en réanimation. L'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Hauts-de-France et la Guyane regroupent 68% des malades les plus critiques. Un autre indicateur est scruté avec attention, c'est le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un malade contamine. Au moment du déconfinement, il était à 0,7. Aujourd'hui, ce R0 est de 1,38. Enfin, le nombre de nouveaux cas confirmés en France a connu une augmentation importante la semaine dernière, plus 54%. La barre des 1000 nouveaux cas par jour a même été dépassée à plusieurs reprises. Pour éviter une deuxième vague épidémique, le Conseil scientifique demande aux autorités de mettre en place des plans de prévention axés notamment sur les plus grandes métropoles. L'instance qui conseille le gouvernement depuis le début de l'épidémie pointe par ailleurs des lenteurs dans la stratégie de dépistage. Enfin, le Conseil scientifique recommande un contrôle plus strict des voyageurs arrivant de pays à risque, avec des tests à leur départ ou à leur arrivée et une mise en quarantaine de 14 jours.
Merci Victor Delande. À Aubourdin, près de Lille, dans le Nord, 15 cas de Covid-19 détectés parmi les pensionnaires et les salariés d'une résidence pour personnes âgées. L'EHPAD en question a été reconfiné et l'ensemble du personnel et des résidents ont été testés. Et c'est justement dans ce contexte de risque épidémique et avant une vague de canicule également, qu'Emmanuel Macron est allé à la rencontre ce matin des auxiliaires de vie à domicile pour personnes âgées. Le chef de l'État a rendu visite à Toulon à une vieille dame de 80 ans et actuellement même la visite se poursuit, Stéphane Frangy.
Oui, et suite à cette rencontre, Emmanuel Macron doit maintenant rencontrer des auxiliaires de vie, celles qui prennent soin au quotidien justement de ces personnes âgées dépendantes, des professionnels en première ligne dans ce contexte combiné de Covid, canicule particulièrement compliqué pour elles. C'est le cas de Françoise qui exerce ici à Toulon.
C'est très bien qu'ils viennent rencontrer les acteurs du terrain parce que le métier d'aide à domicile est un métier difficile et la reconnaissance de leur travail qu'elles ont effectué pendant cette période qui a montré en quoi elles étaient utiles à ce niveau-là, on était en première ligne.
Voilà, une table ronde qui doit se tenir dans quelques instants ici même dans les locaux de l'ancien Hôtel Dieu en présence également du président régional des Petits Frères des Pauvres. Et par la suite, selon l'Élysée, Emmanuel Macron devrait faire des annonces en faveur de ce secteur de l'aide à la personne avec l'ambition que les personnes qui le souhaitent vieillissent chez elles le plus longtemps possible.
On aura sans doute l'occasion d'en reparler dans les prochaines éditions d'Europe 1, notamment tout à l'heure à 13h. Stéphane Frangy, l'un des correspondants d'Europe 1 en région PACA. On vous a beaucoup parlé sur cette antenne de ces procédures judiciaires et de ces plaintes déposées contre l'État par les professions médicales pour un certain nombre de manquements supposés dans la région dans la gestion de la crise sanitaire. Bien souvent, c'est le manque de matériel, de protection qui est à l'origine de ces procédures. Et c'est aussi ce qui motive la veuve d'un urgentiste de l'hôpital de Lons-le-Saunier dans le Jura. Le praticien est décédé en avril, à 60 ans, après avoir été infecté par le coronavirus, et alors même que l'hôpital manquait, semble-t-il, de masques FFP2. Claire Loupiac a donc décidé de porter plainte pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.
Mon mari a travaillé dans un hôpital non préparé. Il savait, quand il a pris sa garde le week-end du 6-8 mars, qu'il courait un risque. On n'a pas suivi ses recommandations. Je ne peux pas accepter ça et je veux que ces personnes qui ont laissé un hôpital dans ces conditions-là, non préparé pour une catastrophe, ces personnes doivent être jugées.
Pour vous, quelles sont les erreurs qui ont été commises ?
Alors, c'est un manque de précaution et au niveau de l'hôpital, donc un manque de masques et surtout de masques FFP2, un manque de tests et une mauvaise préparation de l'hôpital avec un tri des malades qui ne se faisait pas à l'extérieur mais qui était à l'intérieur de l'hôpital. Et toutes ces recommandations préventives, mon mari les avait faites auprès de la direction de l'hôpital, auprès de l'ARS, et jamais ça n'a été suivi. Je veux que cette crise soit la dernière. Ce n'est pas possible qu'une chose pareille se passe en France en 2020.
Claire Loupiac, veuve d'un urgentiste, médecin urgentiste de l'hôpital de Lons-le-Saunier, a des propos recueillis par Victor Delande pour Europe 1.
Europe 1, midi 37, la suite du journal Lionel Gougelot.
On vous a abondamment parlé hier de ces villes qui mettent en place l'obligation du port du masque en extérieur. C'est le cas notamment pour 69 communes du département de la Mayenne. Un département dont malheureusement la réputation, j'ai même presque envie de dire la mauvaise réputation, dépasse les frontières françaises puisque même en Belgique, on déconseille aux touristes de s'y rendre. Reportage Charles Guyard.
La saison est morte, on fera une année blanche totale.
Audrey Ngaroui est désabusée. Patron d'un camping perdu au milieu de la nature mayennaise, ses clients étrangers ont déserté et pour cause.
On a eu quelques Belges qui sont venus, aucun néerlandais. Et là, avec les annonces du gouvernement belge, on n'a plus personne quoi, en fait. Et donc, financièrement, on sait pertinemment que là, au mois d'août, on compte sur zéro recette.
Samedi, Bruxelles a en effet classé la Mayenne sur la liste rouge des destinations touristiques. Résultat, les réservations s'annulent en cascade pour le mois d'août et les Belges déjà installés sont repartis, excepté Jean-Michel et Monique. Originaire de Liège, le couple a lui décidé de prolonger son séjour pour éviter un confinement à domicile, car oui, les règles sont strictes pour les ressortissants du plat pays.
Tous Belges qui vont revenir de la Mayenne, 15 jours, ne peuvent plus sortir de la maison. Nous avions un formulaire à remplir.
On demande votre date d'arrivée et votre date de départ.
Et gare aux oublis, les autorités belges sont sur les dents.
Ce document est important parce que si vous n'avez pas à la frontière et que vous vous faites arrêter, c'est 250 € d'amende.
Hier, dans une lettre ouverte, le président du département, Olivier Richefoux, a contre-attaqué, invitant le Premier ministre belge à venir sur place découvrir les atouts de la Mayenne. Dans le respect des gestes barrières, cela va de soi. Soulgé sur Ouette, Charles Guyard, Europe 1.
On marque une pause et dans un instant, ce drame survenu cette nuit dans le Pas-de-Calais. Un père de famille percuté par un chauffard traîné sur plusieurs mètres avant d'être écrasé par le véhicule qui a pris la fuite.
Il est midi 40, votre journal de la mi-journée se poursuit sur Europe 1 avec vous, Lionel Gougelot.
Un chauffard en fuite depuis ce matin près de Lens, dans le Pas-de-Calais. L'individu est soupçonné d'avoir percuté et tué un père de famille d'une cinquantaine d'années. Une scène particulièrement choquante, Maximilien Carlier, puisque la victime a été traînée sur plusieurs mètres avant d'être écrasée par le véhicule.
Oui, effectivement, cela s'est passé vers 4h du matin sur une route départementale entre Arnes et Loison-sous-Lens, dans le bassin minier, à une centaine de mètres d'un terril. En voulant manœuvrer dans une rue étroite, un camion percute des voitures en stationnement. Rétroviseur cassé, tôle arrachée, le bruit réveille certains riverains. Un homme et son fils de 18 ans s'élancent à la poursuite du chauffard. Quelques minutes plus tard, quelques rues plus loin, ils retrouvent l'auteur des dégradations. Père et fils descendent de leur véhicule pour stopper le conducteur afin d'échanger, de discuter, sauf que celui-ci ne veut rien entendre. Il percute le quinquagénaire, le traîne sur plusieurs mètres avant de l'écraser. Tout ça sous les yeux du fils. La victime de 54 ans décède sur place. À 200 mètres de là, une caméra de surveillance. Elle pourrait servir à l'enquête alors que le chauffard est toujours en fuite.
Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Un homme d'une trentaine d'années abattu cette nuit à Ebens, dans la banlieue de Grenoble. La victime, âgée de 27 ans, était passager d'un véhicule. Le tueur a pris la fuite. Les enquêteurs n'ont pas encore clairement déterminé les circonstances de cet homicide. C'est une information révélée par nos confrères des Échos ce matin. Le gouvernement réfléchirait à une taxation exceptionnelle des complémentaires santé. La raison, elle est simple. Durant la crise sanitaire, les mutuelles ont économisé 2,6 milliards d'euros sur leur remboursement. Et l'idée, Olivier Samain, eh bien, c'est de leur demander de participer tout simplement à l'effort pour combler les pertes de l'assurance maladie.
Oui, au plus fort de la crise sanitaire, les dépenses liées au traitement du Covid se sont envolées, ça se comprend. Mais tous les autres soins, eux, ont subi un coup d'arrêt. Les soins des médecins spécialistes, notamment, de même que les soins dentaires, avec comme conséquence une très forte baisse des dépenses à rembourser par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assurances. D'après les Échos, le gouvernement évalue effectivement à 2,6 milliards d'euros les sommes que ces assureurs complémentaires n'ont pas eu à sortir entre la mi-mars et la mi-mai. D'où la volonté du gouvernement de les mettre à contribution via une taxe exceptionnelle qui viendrait réduire l'énorme déficit qui s'est creusé dans les comptes de la Sécurité sociale sous l'effet du confinement, déficit qui dépassera les 30 milliards d'euros à la fin de l'année.
Alors, quel sera le montant de cette contribution exceptionnelle de complémentaire santé ? La réponse n'est pas si simple, Olivier.
Pas simple, en effet, parce qu'une partie des soins que les Français n'ont pas fait pendant le confinement, une partie de ces soins est en train d'être rattrapée. On le voit notamment pour les soins dentaires. Dès le mois de juin, les dentistes et les prothésistes ont été pris d'assaut. L'économie des complémentaires santé sur ces soins était donc temporaire. Et puis, il y a un autre élément qui va entrer en ligne de compte, c'est le fait que les pathologies non traitées pendant le confinement ont pu s'aggraver avec, du coup, des montants plus élevés aujourd'hui à rembourser. Tout ça, les complémentaires santé comptent le faire valoir dans la discussion qui est menée en ce moment avec le gouvernement.
Merci Olivier Samain du service économie d'Europe 1. C'est une autre conséquence de la crise sanitaire. On n'a jamais aussi peu payé en liquide que depuis la fin du confinement. D'ailleurs, au passage, les banques ont encore supprimé l'an dernier près de 2000 distributeurs automatiques de billets. Mais la fin du liquide, c'est aussi parce que les paiements sans contact sont en hausse constante. Thierry Laborde, le directeur adjoint de BNP Paribas, était l'invité ce matin de la matinale d'Europe 1 avec Sébastien Krebs.
Un paiement sur deux aujourd'hui est en sans contact. Des paiements qui augmentent, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie. On est proche de plus 10% d'évolution par rapport à la même période de l'an passé.
Et on parle aussi de nouveaux types de cartes bancaires, avec une carte bancaire qui sera biométrique. Comment ça va fonctionner?
Oui, ça, justement, on a compris que nos clients voulaient de la sécurité lorsqu'ils payaient. C'est ce que l'on voit sur le sans contact, qui est limité encore à 50 euros aujourd'hui. Eh bien, on a décidé, en partenariat avec Thales, de lancer à l'automne une carte où vous allez payer quel que soit le montant, avec votre empreinte digitale. Donc le client va insérer sa carte dans un petit lecteur qu'on lui envoie, il va apposer 5 fois son empreinte, comme on peut le faire sur un téléphone portable aujourd'hui, sur ce capteur biométrique, et après avoir paramétré sa carte qui ne reconnaîtra que son empreinte digitale, il pourra payer quel que soit le montant, sans limite, en sans contact.
Thierry Laborde, le directeur général adjoint de la banque BNP Paribas, ce matin sur Europe 1.
Europe 1, midi 45, le journal La Suite, Lionel Gougelot.
On l'avait tous plus ou moins constaté, mais Météo France l'a confirmé hier. Le mois de juillet aura été l'un des mois les plus secs depuis 60 ans. 68 départements sont toujours concernés par des restrictions d'eau. Et la vague de chaleur annoncée pour les prochains jours ne va sans doute pas améliorer les choses. Dans le Doubs, cette sécheresse a fait littéralement disparaître la rivière, notamment par certains endroits entre Pontarlier et Morteau. Denis Vonin, président d'une association locale de pêche, n'avait jamais vu ça.
Il n'y a plus rien là, c'est une route, plus une goutte d'eau. Ça sent pas bien bon, quoi, quand on va se promener et puis qu'on veut voir une belle rivière et puis qu'on voit plus que du sable et puis des poissons crevés au fond. Vous avez des flaques avec tous les poissons au ventre en l'air et puis tout est mort. Dans le temps, les gosses allaient se baigner dans les bassines, comme ils appelaient ça, tout ça. Non, mais c'était une rivière qui vivait. Celui qui a vécu il y a 30-40 ans ici, l'eau, il y en avait partout, il pleuvait tout le temps. Aujourd'hui, vous partez, vous ne prenez plus un habit de pluie. On est en train de vivre le réchauffement, on le prend en pleine tête. Les bois, les forêts, les champs, tout est sec, donc Il faudrait qu'il pleuve 15 jours, 3 semaines pour en voir le résultat. Et puis il annonce 10 jours de grande chaleur, hein, à partir de mardi, donc ça va finir la catastrophe.
Denis Vonin, président d'une association locale de pêche, des propos recueillis par Caroline Baudry. En Californie, la sécheresse est également à l'origine d'un incendie gigantesque qui a ravagé plus de 8000 hectares dans la région de San Bernardino. C'est à l'est de Los Angeles. Alors il n'y a aucune victime, mais des milliers d'habitants ont été évacués. Les autorités sur place ont déployé un dispositif exceptionnel de lutte contre les incendies. Plus de 1000 pompiers mobilisés H24, comme on dit, pour lutter contre celui que l'on a baptisé l'Apple Fire. Écoutez ce reportage de Benoît Clerc, notre correspondant en Californie.
L'Apple Fire est le premier gros incendie de la saison en Californie, avec plus de 12 000 hectares brûlés en 4 jours. On voit sa fumée depuis Las Vegas et Phoenix, villes respectivement distantes de 350 et 500 km du foyer principal. La famille de Brian habite la région depuis 5 générations et n'a jamais vu ça.
L'endroit qui brûle en ce moment n'a pas brûlé depuis 200 ans. C'est le pire que j'ai pu voir ici.
260 camions de pompiers, 9 hélicoptères, des bulldozers, plus 11 avions gros porteurs d'eau ont commencé leur noria à partir des lacs proches. Mais leurs efforts ne sont pas pour le moment couronnés de succès en raison de la sécheresse et du terrain inaccessible. Le feu n'est contenu qu'à moins de 10% ce matin. Fernando Herrera est le chef des pompiers du comté de San Bernardino.
La combinaison du temps très chaud, de la topographie et l'accès au terrain est vraiment difficile ici.
8000 personnes ont déjà été évacuées, mais la Croix-Rouge n'a pas pu les accueillir dans des gymnases en raison de la Covid-19. Près de 3000 pompiers sont sur place. Pour eux, il a fallu installer un campement d'urgence. Ils travaillent 12 heures d'affilée, puis se reposent 12 heures dans des tentes individuelles. Mais il leur faut bien sûr des douches, des toilettes, de quoi se nourrir et même une salle de prière. Une véritable organisation militaire avec un intendant, des comptables encadrés de shérifs armés, car ils ont des centaines de milliers de dollars en cash sur eux pour payer l'essence des camions, les restaurateurs, les livreurs de soda, etc. Les autorités espèrent une accalmie du vent pour jeudi. En attendant, les rotations continuent. Au PC Feu de l'Apple Fire à Banning en Californie, Benoît Clerc, Europe 1.
Il est midi 48.
Europe 1.
On marque une pause et dans un instant, direction l'Espagne qui a découvert hier soir que l'ancien roi Juan Carlos a décidé de s'exiler.
La suite du journal de la mi-journée sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Il aurait déjà quitté l'Espagne avant même d'annoncer hier soir son exil. L'ex-roi Juan Carlos a quitté son pays alors qu'il est sous le coup d'une enquête ouverte pour corruption. L'Espagne s'est réveillée un peu sous le choc ce matin. Nicolas Feldman, vous êtes à Madrid pour Europe 1 et vous êtes très précisément devant le palais de la Zarzuela, c'est-à-dire la résidence de la famille royale qui, elle aussi, est un peu secouée par cette nouvelle affaire, Nicolas.
Oui, effectivement. Et ici, toujours aucune déclaration de l'actuel souverain. Philippe VI, retranché dans son palais, un palais à l'abri des regards derrière de grands arbres. Vous le disiez, son père Juan Carlos, lui, ne s'y trouve plus. Et la presse espagnole l'affirme, il aurait même déjà quitté le pays. Où ça? Eh bien, chaque média y va de ses informations. Juan Carlos aurait trouvé refuge au Portugal pour les uns, en République dominicaine pour les autres. Mais dans les rues de Madrid, pour beaucoup d'Espagnols, peu importe où se trouve l'ancien roi, Patricia estime qu'il ne peut se soustraire à la justice.
C'est une honte pour le pays. Moi, je suis républicaine et le fait que Juan Carlos ait quitté l'Espagne, ce n'est pas un bon signal. Pour moi, il devrait rester ici pour rendre l'argent qu'il a volé et répondre légalement de ses actes devant un tribunal.
Voilà pour les républicains et chez les partisans du roi émérite. On est forcément plus nuancé. Alfonso a 72 ans. Pour lui, au-delà des affaires de corruption, des scandales extra-conjugaux aussi, Juan Carlos reste l'homme qui a mené l'Espagne de l'après-Franco vers ses premières élections libres.
Je suis triste parce que c'est un monsieur qui a fait beaucoup pour l'Espagne et tout d'un coup, oui, d'accord, il a fait des erreurs. Bon, mais c'est une époque qui s'effondre et je suis très triste.
Alors, je vous le disais, toujours aucune réaction du côté du Palais Royal. Mais on attend ici les mots du chef du gouvernement, Pedro Sanchez. Pardon, il doit s'exprimer à la sortie du Conseil des ministres.
Merci Nicolas Feldman, en ligne de Madrid pour Europe 1. Emmanuel Duteil, vous connaissez bien le fonctionnement des monarchies européennes. Qu'est-ce qui a poussé l'ancien monarque à s'exiler? Il veut fuir la justice?
Non, on ne peut pas parler de fuite. Hein. Il n'est pas question, par exemple, de se soustraire à la justice espagnole. On parle de quoi? On parle d'un exil. Et ça sert à quoi un exil? Eh bien, ça sert à se faire oublier. Pourquoi Juan Carlos veut se faire oublier? Eh bien, tout simplement parce qu'il a beaucoup abîmé ces dernières années l'institution monarchique espagnole et que ça pose tout simplement aujourd'hui un énorme problème. Alors, l'énorme coup de canif remonte à 2012. L'Espagne est alors touchée encore plus fortement que les autres pays par la crise financière. Eh bien, lui, il ne trouve rien de mieux que se casser la hanche en plein safari de luxe au Botswana où il est parti avec sa maîtresse chasser l'éléphant, un séjour payé par un entrepreneur saoudien. La polémique est alors énorme et c'est ça qui va le pousser derrière à devoir abdiquer. Il y a eu aussi plein d'affaires de corruption au sein de la famille espagnole. Imaginez que son propre gendre, le mari d'une de ses filles, est aujourd'hui en prison pour détournement de fonds. Et puis, il y a donc eu toutes ces révélations ces derniers mois, des révélations qui émanent en plus de son ancienne maîtresse autour de pots de vin qu'il aurait reçus. On parle de dizaines de millions d'euros, notamment pour la construction d'un TGV entre La Mecque et Médine. Donc, c'est ça aujourd'hui qui le pousse à quitter le pays. Reste à savoir où il compte passer son exil et puis avec qui? Est-ce qu'il va partir au final avec la reine Sofia? Pour le moment, ça ne semble pas être le cas.
Merci Emmanuel Dutheil.
Il est 12h54, le journal de la suite sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Le tourisme spatial, un rêve, bientôt réalité, en tout cas pour ceux qui en auront les moyens. La compagnie Virgin Galactic annonce qu'elle sera en mesure d'effectuer un premier vol touristique dans l'espace au premier trimestre de l'année prochaine. C'est le fondateur de la compagnie, Richard Branson, qui effectuera, semble-t-il, le vol inaugural. 600 personnes auraient déjà réservé leur billet pour l'espace pour la modique somme de 250 000 dollars. Alors dites-nous, l'or d'Autriche, à ce prix-là, on a le droit à quoi?
Alors, vous pourrez flotter pendant quelques minutes à la frontière de l'espace. Alors, ce n'est pas un voyage en orbite autour de la Terre, mais les passagers seront dans un vaisseau qui allumera son moteur pour une ascension à 80 km d'altitude. Puis, les moteurs seront coupés pendant quelques minutes. Ça créera une sensation d'apesanteur et les passagers pourront détacher leur ceinture pour flotter, promet le milliardaire Richard Branson. Il y a 6 places pour les passagers, 2 pour les pilotes. Évidemment, à 80 km d'altitude, les touristes auront une vue spectaculaire sur la Terre. Mmh. Chaque siège est près d'un grand hublot et une caméra est fixée même sur chaque hublot pour que le passager puisse être pris en photo avec la Terre en arrière-plan, magique. Puis l'appareil commencera sa redescente vers la Terre. Alors c'est un projet que Richard Branson a depuis plusieurs années déjà. Il n'est pas le seul. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, est lui aussi engagé dans cette course au tourisme spatial. Richard Branson a plusieurs fois repousser la date du premier voyage touristique dans l'espace. Son vaisseau avait eu un accident en 2014 qui avait causé la mort du copilote, mais cette fois, il affirme qu'à l'automne prochain, deux tests grandeur nature auront lieu avec deux vols habités, avant donc que lui-même, le milliardaire, ne s'envole au début de l'année 2021.
Merci Lord d'Autriche. Et vous, vous êtes aussi sur la liste des passagers?
Ah, j'adorerais.
On peut mettre un petit billet, peut-être se cotiser pour vous envoyer dans l'espace. On termine avec le sport et le football. Et c'est déjà presque un compte à rebours qui a commencé avant la reprise du championnat de France de Ligue 1. Un championnat sur lequel, malgré tout, continue de planer la menace du coronavirus. Certaines rencontres amicales de préparation ont d'ailleurs été annulées ici ou là, des cas de Covid ayant été détectés chez certains joueurs. C'est le cas notamment du match Marseille-Montpellier qui était prévu demain, Jean-François Pérez.
Oui, et dans un communiqué commun, les deux clubs expriment leur regret de ne pas pouvoir disputer ce match qui devait se dérouler demain soir au Stade Vélodrome devant 5000 personnes. Les billets seront remboursés. L'OM évoque des mesures de précaution sanitaire pour justifier cette décision. Un cas suspect de Covid-19 a été détecté dans l'effectif montpelliérain. La liste s'allonge donc. Dijon, Nantes, Orléans, Guingamp, ce sont les clubs qui ont compté un ou plusieurs cas positifs ces derniers jours. Guingamp a dû annuler un match amical contre Le Mans. Une décision évidente pour Xavier Gravelaine, le directeur du foot du club breton.
C'est plus embêtant que ça coupe comme ça pendant 10 jours. Mais la sécurité des salariés passe avant tout. Toutes les précautions sont prises et que ce soit Nantes ou Lille, on en voit un peu partout en Espagne, un peu partout. Mais je pense que dans le monde du sport en général, on va vivre une année un peu complexe, quoi.
Oui, complexe sportivement, mais aussi financièrement, car même si la reprise de Ligue 1 est toujours prévue le 21 août, la jauge de 5000 spectateurs maximum est maintenue. C'est évidemment pas une bonne affaire pour le président du Racing Club de Strasbourg, Marc Keller.
À tous les matchs, on est quasi à guichet fermé. Donc évidemment, dans des jauges réduites, il y aura des conséquences économiques sur notre budget. On a déjà présenté un budget à la DNCG avec 25 ou 30% de matchs à huis clos au cours de la saison pour essayer d'anticiper un petit peu les risques.
Et les pertes de revenus pour les clubs professionnels français pourraient s'élever à plus de 400 millions d'euros et jusqu'à 8000 emplois liés au football direct ou indirect pourraient disparaître.
On n'a pas fini de faire le bilan de cette crise du coronavirus sur le sport en général d'ailleurs. Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Il nous reste à voir la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Valérie Darmon, le beau temps s'impose partout, si l'on accepte encore quelques averses sur les régions de l'Est.
Jusqu'à Auvergne, Rhône-Alpes, les Alpes du Sud, le ciel qui est effectivement nuageux avec quelques petites averses plus fréquentes près des frontières de l'Est, en particulier sur le relief, avec même des flocons toujours possibles sur les Alpes du Nord à partir de 2400 mètres d'altitude. Sur la Corse aussi, le temps est plus menaçant qu'ailleurs avec des averses marquées et parfois accompagnées de coups de tonnerre. Et sur le reste du pays, vous l'avez dit, le soleil qui s'impose largement, y compris sur les Pyrénées où l'évolution est plutôt favorable avec de belles éclaircies cet après-midi. Midi, passé les nuages de ce matin. Sur le pourtour méditerranéen, le ciel est très dégagé car la tramontane souffle jusqu'à 70 km/h et le Mistral à 90. Au meilleur de la journée, le thermomètre va afficher 23 à 28 en général, entre 19 et 22 sur les côtes de la Manche et le littoral breton. Le mercure va monter jusqu'à 26 à 31 sur le pourtour méditerranéen et toujours 33 dans le Var. Elle reste tout à fait respirable par rapport à ce qui nous attend à partir de jeudi.
Merci Valérie Darmon. À ce soir Géraldine.
À ce soir, 18h. Soyez les bienvenus, vous êtes bien sur Europe 1. Il est bientôt 13h.